Globule Radio 90.5. Pour ceux qui ont raté l'émission, vous pouvez toujours réécouter les rencarts en entier et les interviews une par une sur notre site globule.chamonix.radio au menu podcast. Avant de rencontrer Max Claret-Tournier qui va nous parler du Mont-en-Vert et surtout de la grotte du Mont-en-Vert, on rencontre là tout de suite Christophe Delage. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Alors Christophe, vous êtes né à Paris et vous avez grandi sur la Côte d'Azur, à Antibes plus précisément. Et durant toutes vos vacances de jeunesse, vous n'avez cessé de faire les allers-retours à Chamonix. Vous êtes fils de résidence secondaire, comme vous me l'avez glissé tout à l'heure, d'une maman très impliquée dans l'alpinisme qui était fidèle cliente de la compagnie des guides. Elle a d'ailleurs été reconnue et décorée pour ses grandes courses et expéditions à travers le monde. Un autre célèbre guide de la compagnie, Paul Pariset, qui est aussi architecte, vous a transmis ses deux passions, la montagne et l'architecture. C'est d'ailleurs lui qui a refait le refuge des Cosmiques. Quelques années plus tard, c'est vous qui faites celui du Goûter. Après vos études supérieures à Paris, vous vous êtes installé à Chamonix et vous y avez passé vos premières 10 années d'architecture en montagne. Vous avez choisi de vous installer ici avec une certaine prétention de vous engager dans la vie de Chamonix. Vous connaissiez bien la vallée et avez beaucoup arpenté les montagnes. Vous avez voulu mettre vos compétences au service de la ville et de ses citoyens. Alors je me demande pourquoi vous avez choisi de vous impliquer dans des projets publics.
Ah, c'est quelque chose qui est venu à moi plus que je l'ai décidé. Après mes 10 premières années d'exercice professionnel et un certain regard sur l'urbanisme à Chamonix en général, je me suis senti impliqué, pas toujours d'accord sur les différentes orientations prises et avec un sentiment de pouvoir donner une certaine compétence et une expertise sur un regard et sur le développement de la ville, notamment suite au... Je suis arrivé au moment de l'incendie de la salle Michel Croz, de toutes ces catastrophes de montagne, juste à la veille des années 2000. Et ça m'est resté en mémoire, et notamment cet incendie de salle des fêtes, sur lequel je me suis toujours dit qu'il pouvait se passer quelque chose, et ça a créé une ouverture et une possibilité dans le redessin de la ville, et notamment entre cette place du Mont-Blanc et le centre-ville, voilà, entre autres.
Vous avez été conseiller municipal dans la liste de l'opposition. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous en êtes arrivé là?
C'est une grande richesse, on va dire une expérience professionnelle et sociale importante. Les rouages de la vie politique, les fonctionnements, le temps que ça demande aussi à mener, à tenir un projet. Donc c'est une expérience très enrichissante.
Et pourquoi avoir choisi de vous impliquer dans la vie politique? Alors comment vous en êtes arrivé à être conseiller municipal?
Et ça a commencé par des réunions lors des premières municipales dans lesquelles je me suis impliqué. Et j'ai été en 2008 parachuté avec une demande assez inédite pour tenir une liste qui s'appelait J'aime Cham. Mm-hmm. Et qui m'a mis le pied à l'étrier, parce qu'en étant tête de liste, j'ai été confronté au journalisme, aux questions, aux réflexions. Et par la suite, alors on n'a pas continué, j'ai pas continué, la liste s'est dissoute. Et pour la mandature d'après, j'ai été invité à participer de nouveau à des thèmes, notamment sur l'architecture, sur l'urbanisme en particulier en fait.
Oui, et notamment, vous aviez un projet pour rénover la caserne de pompiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un grand sujet que j'ai effectivement défendu. Mais alors, ça date notamment de cet incendie de la salle Michel Croz qui a permis une ouverture sur les quais de l'Arve. Et des projets étaient déjà... J'avais suivi avec Paul Pariset en arrivant en 98. Il y avait eu des projets qui datent des années 90 sur l'aménagement de cette place du Mont-Blanc, que certains estimaient vide, qu'il fallait peut-être repeupler, qu'il fallait densifier. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu de difficulté avec le grand projet de Chamonix Nord, avec les coupoles, les tours, qui étaient très controversées. Et c'était une occasion de voir une liaison possible avec cette ouverture sur l'Arve, sur les quais d'Arve, sans la salle Michel Croz, d'ouvrir une impasse qui était jusque-là une impasse avec la caserne des pompiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la caserne des pompiers n'était pas propriété de Chamonix, elle était propriété du département, et puis ça traitait la sécurité et le développement routier du département. Donc, ça n'était, on peut dire, on n'était pas vraiment, on n'avait pas les rênes et on n'avait pas le pouvoir de décider ou de orienter une éventuelle rénovation pour ce bâtiment. Mais à la suite de ça, avec le temps, il a fallu une vingtaine d'années, même plus, pour que petit à petit, la sécurité soit déménagée au Pèlerin, avec la nouvelle caserne. Et le CERD, donc les routiers, le département routier, a été aussi déménagé vers un autre site. Ce qui fait que, et puis il y a eu un protocole d'accord entre Chamonix et le département pour que Chamonix récupère ce bâtiment. Et effectivement, en amont, j'ai beaucoup défendu la possibilité de rénover et de réhabiliter cet espace qui représentait pour moi le nouvel espace culturel, c'est comme ça que je l'imaginais, entre une association avec la maison des associations, la MJC.
Globule Radio aurait pu avoir des locaux dedans, par exemple.
Globule Radio, toute forme, et puis aussi un café peut-être plus... un café ouvert sur la place du marché. On a toutes les villes qui ont un marché qui fonctionne bien, comme c'est le cas de Chamonix, a son café du marché. Et là, la commune, à mon avis, a raté une occasion d'avoir un lieu dynamique, un lieu de réunion à travers cette caserne, qui pouvait aussi se lier avec la rénovation du musée alpin. Enfin, en fait, beaucoup de projets auraient pu collaborer, se retrouver au centre de cette place pour créer un lieu de vie.
Et alors maintenant, vous vous êtes tourné plutôt vers le secteur privé. Pourquoi ?
Probablement un peu par déception, ou même pour faire un petit peu aussi une réflexion plus dynamique avec des investisseurs privés qui sont effectivement plus à même de mener un projet. Et donc, j'établis sur mon exercice professionnel, j'essaye d'orienter mon activité vers le soutien d'une vie sociale locale avec des projets qui seraient bénéfique à l'héritage de Chamonix, à l'ADN peut-être de Chamonix.
Alors oui, on va parler après une petite pause musicale d'un projet qui est en cours avec vous. Mais tout de suite, on écoute « Why Does It Always Rain on Me » de Travis.
Place.
Globule Radio 90.5. Vous pouvez nous rejoindre en live sur Facebook, Globule Radio Chamonix. Un petit coucou à Daniel et un grand merci pour votre message et à Justin aussi qui nous regarde et qui nous ont mis des petits mots. Désormais, si vous voulez voir notre flux non interrompu, vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur notre site de Globule, globule.chamonix.radio, menu live vidéo. C'est sans interruption et en haute qualité. Nous sommes toujours avec Christophe Delage.
Oui, alors Christophe, vous faites partie d'un groupe de 6 skieurs qui défendent les valeurs du ski. Vous avez opté pour un investissement équitable, vous avez mélangé vos compétences et vous avez choisi de créer et faire revivre un lieu historique qui n'est autre que la cantina. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lieu ?
Le lieu, la cantina, c'est un établissement qui reste en mémoire de beaucoup de jeunes gens, de plus âgés aujourd'hui, mais qui est un lieu mythique et de vie très prononcée autour du ski, autour de l'innovation, très péchu, qui réunissait des jeunes, des anciens, toutes générations confondues, faisant vivre et la musique en particulier. D'ailleurs, je tiens à remercier tout ce qui s'est passé à travers Couleur 3 et cet élan formidable qu'a donné la cantina et ce dynamisme qu'a donné la cantina à l'époque. Et voilà, donc c'est un établissement malheureusement qui a connu dans les années 90 une perte d'activité, qui a été repris, mais bon, avec d'autres orientations, plus de restauration en particulier. Et qui a ensuite été mis en vente et pendant plusieurs années avec des difficultés pour réhabiliter ce lieu. Je crois que pas mal d'investisseurs se sont arrêtés en cours de projet pour des raisons d'urbanisme, pour des raisons de coûts et de retour d'investissement difficiles.
Et alors, quelles sont vos ambitions ? Enfin, c'est quoi les ambitions que vous avez pour la nouvelle cantina ?
Alors, écoutez, déjà, c'est une histoire de personnalité, comme vous avez dit, proche d'une bande de skieurs, très investis dans l'univers de la montagne, très amoureux de Chamonix et de son esprit. Et c'est avec cette intention qu'on s'est lancé dans ce projet de rénovation. Alors, on a pris les choses de façon assez simple en disant qu'on ne changera pas la destination de ce local. Ça simplifie énormément d'un point de vue d'urbanisme parce que on reste sur un hôtel, restaurant et bar, restaurant, hôtel. Dont le but est d'accueillir des gens d'un peu partout, de pouvoir accueillir autant les locaux et l'international, on va dire, le ski bump et les banquiers, en quelque sorte, de réunir un peu tous ces amoureux du ski et de la montagne sans distinction particulière sociale. Et donc de refaire vivre, probablement, très certainement à travers la musique, à travers des échanges d'expériences et de renouveau. L'idée quand même majeure, l'ADN étant de refaire vivre ce lieu mythique à travers un mémoire de ce qu'ont laissé nos prédécesseurs sur le ski, l'innovation dans la glisse. Voilà.
Et alors les rénovations, elles ont commencé. Comment vous avez repensé le lieu en termes de décoration, de couleur, d'ambiance ?
Écoutez, ça, je vous laisse le soin de le découvrir, évidemment.
C'est une
surprise. On a déjà commencé à annoncer le nom et le concept. Il est basé un petit peu sur ce côté ski fun, avec des couleurs vives, avec un certain dynamisme, beaucoup d'images, une grande banque d'images, des invités pour lesquels on a pas mal d'idées de créer des événements, notamment très certainement en venant vers vous. Pour
une collaboration, pourquoi pas.
Pour une collaboration et déjà pour une éventuelle émission avant ouverture de présentation.
Ce serait super. Mm-hmm. Et alors, vous parliez du nom juste avant. C'est quoi le nouveau nom ?
Ça s'appelle Cosmic.
Vous avez changé le nom de la cantina.
On a
vous
eu
avez
cette
osé changer le nom de la cantina.
On a eu cette audace, oui. Et on est parti sur un commun accord sur Cosmic pour des raisons assez évidentes de ce que représente ce mot, entre le couloir, l'arête, le refuge, le lieu. Pour les skieurs, ça reste une descente merveilleuse quand elle est très abordable, très accessible. Et voilà, et puis il y a aussi une dimension évidemment au-delà, dans le cosmique, pour aller voir ce qui peut se passer dans le cosmos et dans l'au-delà.
L'ouverture, elle est prévue pour quand ?
L'ouverture n'est pas tout à fait définie. On est sur on est probablement sur une saison d'hiver prochain, avec, on l'espère, des événements qui pourraient se produire avant. Puisque les travaux, bon, on a pris du retard avec les événements de Covid,
de confinement.
Mais on arrive, on aboutit le projet et on serait prêt à probablement accueillir des événements avant l'ouverture.
Alors, est-ce que vous avez d'autres infos à nous communiquer sur la cantina que vous voulez partager avec nous ?
Sur Cosmique, maintenant
qu'on connaît le nouveau nom.
Des infos particulières, écoutez, non, on a une stratégie de marketing qui est mise en place et qui va se dérouler au cours de l'automne. Je pense que déjà on peut partir sur une éventuelle émission avec vous pour l'ouverture, par exemple.
Ce serait super. On parlera de tout ça en off. Et ben merci beaucoup, Christophe, d'être venu au micro de Globule Radio. On va écouter Danser dans le noir de Baron sur Globule Radio.